l'univers. À ce jour, nous connaissons seulement 5% de la matière qu'il compose. Et selon les hypothèses actuelles des scientifiques, les 95% inconnus seraient constitués de matière noire et d'énergie sombre dont on ne connaît pas les vraies natures. C'est pourtant cette énergie sombre qui expliquerait l'accélération de l'expansion de l'univers, découverte en 1998. Et si on cherchait à en savoir plus ? L'Agence spatiale européenne a lancé une mission pour tenter de découvrir l'invisible, la mission Euclide. Euclide, c'est deux instruments ultra-performants, dont la plus grande caméra infrarouge jamais lancée dans l'espace, qui donnera des mesures d'une précision inégalée à ce jour, montée et testée ici, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euclide, c'est la coopération de plus de 220 laboratoires, dans 16 pays, pour plus de 6 ans de mission du satellite dans l'espace, et plus de 170 millions de gigaoctets de données à traiter. Euclide, c'est ici, et c'est là-bas. Décollage en 2022.
E-U-C-L-I-D.
En anglais, on dirait Understanding the Dark Side of the Universe.
Understanding the Dark Side of the Universe.
Euclide.
C'est une aventure humaine qui est unique. Hein. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Ouais, il y a l'excitation de la découverte et puis d'amener sa contribution à toute une aventure humaine.
Euclide.
Quelque chose qui interpelle quoi.
Mission Euclide.
Le métier à tisser l'univers.
Il faut peut-être contextualiser, non ?
En gros, le fondement ici, c'est la physique fondamentale. C'est on essaye de tester les lois de la physique fondamentale. Enfin, moi, c'est tel que je le comprends. Et pour ça, il y a plusieurs approches pour vraiment tester, mais vraiment les lois. Donc, il y a l'approche physique des particules, où on va regarder les particules dans les accélérateurs. Il y a l'approche plus astroparticules, où on va regarder les particules dans la nature. Donc, ça peut être des particules qui viennent de l'espace. On peut tester avec des télescopes au sol, dans l'espace ou sous-marin. Et puis après, je dirais, il y a l'autre pan qui est la cosmologie que nous on fait, donc avec LSST et Euclide, où là on va regarder vraiment la physique, les lois fondamentales de la physique, mais dans l'espace. Donc plus à une échelle microscopique, mais à une échelle macroscopique. L'objectif, je pense, final, serait de rejoindre les deux lois de base, que sont la physique microscopique et la physique macroscopique.
De l'infiniment petit à l'infiniment grand.
C'est ça.
Le slogan.
Le slogan du CPPM.
Moi, je m'appelle Aurélia Secroun, je suis instrumentaliste. Et donc, j'avais la responsabilité de justement caractériser les détecteurs de vol de l'instrument NISP. On va dire, j'ai pris le relais de Philippe une fois les cryostats montés pour les valider d'un point de vue pour le coup plus optique et instrumental et réaliser la caractérisation, donc définir le plan de test, réaliser les tests, faire les analyses de ces tests et sortir les cartes qui sont en fait au final des cartes de référence pour le projet.
Je suis Philippe Lagier, je suis ingénieur mécanicien et j'ai eu en charge donc de réaliser les deux cryostats de caractérisation des détecteurs Euclide depuis donc leur conception jusqu'à leur montage et leur démarrage, on va dire.
Moi c'est Mathieu Niclas, ingénieur en mécanique aussi. Ma tâche était plus de récupérer les détecteurs en fait une fois qu'ils étaient caractérisés par mes collègues du CPPM et donc de les intégrer, donc c'est-à-dire de les monter en fait mécaniquement sur l'instrument de monter également tous les supports qui sont autour et avec les détecteurs et également l'électronique qui va avec, faire toutes les connexions, faire la métrologie aussi pour vérifier qu'on est bien au focus de l'instrument. Ça, je pourrais peut-être en reparler, mais c'était un point assez important sur l'instrument. Puis de livrer un sous-ensemble en fait où à l'intérieur le plan focal est monté à la bonne position et de fournir ça aux lames pour l'intégration sur l'instrument cette fois-ci.
avoir déjà expliqué la caractérisation. L'idée de la caractérisation, en fait, c'est que tout instrument a des défauts, n'est pas parfait. Enfin voilà. Idéalement, dans les modèles, ça marche toujours bien d'un point de vue scientifique. Quand on crée une manip, on part d'un modèle. Mais il y a des défauts, et ces défauts, il faut pouvoir les intégrer dans le modèle pour pouvoir être au plus près de la réalité et pour pouvoir au mieux préparer la manip. Donc là, nous, on va essayer de caractériser tous les défauts de ces détecteurs par rapport à ceux dont on a besoin, évidemment. Donc l'idée, c'est de mesurer très précisément certains paramètres. Alors, les classiques étant le courant d'obscurité, le bruit de lecture, la linéarité. Alors là, on a découvert en plus un paramètre au passage qui s'appelle la persistance, qui est devenu un problème en cours de route, on va dire. Tout ça, faut qu'on le caractérise, parce que finalement, au final, le détecteur, c'est l'élément clé de la chaîne de l'instrument. C'est lui qui va récupérer les photons et qui va nous dire combien il y avait de photons dans la galaxie au départ. Donc qu'on puisse dire, si on mesure en fin de chaîne tel signal, c'est parce qu'il y avait tant de photons dans la galaxie. Donc c'est hyper important de faire le ratio entre ce qu'on mesure et ce qui vient de l'extérieur. Ce sont des détecteurs qui sont fabriqués par une société américaine qui s'appelle Teledyne. Globalement, ils sont fabriqués par eux, on va dire pré-testés par eux. La NASA en a acheté une soixantaine. Sur ces 60-là, ils ont commencé à faire un certain nombre de tests pour les classer. Et on a pris les 20 meilleurs. Les 20 meilleurs sont arrivés ici. Et il y en a donc 16 qui servent, qui sont montés sur l'instrument, et 4 qui servent de spare au cas où il y en a un qui casse en route, en fait. Donc nous, on a récupéré les 20 meilleurs et on les a testés, donc vraiment avec pour objectif d'avoir tous leurs paramètres pour pouvoir les décrire le plus précisément possible.
Et donc c'est là qu'intervient le cryostat ?
Les cryostats qui sont en bas, oui.
Là, on va rentrer dans la galerie d'assemblage. C'est un grand espace et il y a aussi des salles, dont la salle blanche Euclide, dans laquelle il y a les cryostats qui ont servi à la caractérisation.
Donc il y a deux cryostats qui sont identiques en parallèle. Ça c'était pour pouvoir tester donc en parallèle les détecteurs pour aller plus vite, pour gagner du temps par rapport au planning qui était extrêmement serré. Alors un petit rappel sur ce qu'est un cryostat, c'est donc là vous voyez c'est une enceinte à vide qui fait à peu près 1,20 m de long par 35 cm de diamètre. Et qui est capable de garder du froid, à savoir en ce qui nous concerne à peu près moins de 200 degrés ou 80 degrés Kelvin, puisque nous on parle en degrés Kelvin. Et le froid, lui, est réalisé par ce qu'on appelle une tête froide qu'on voit au-dessus, par laquelle arrivent les câbles remplis de gaz avec la pompe que vous voyez derrière. C'est un peu un système de compression détente. Donc ça produit le froid et l'enceinte, ce qu'on appelle le cryostat lui-même, donc c'est une enceinte qui permet de conserver ce froid sur une longue durée. Pour ne pas faire un glaçon avec la différence de température qui est la température ambiante de la salle et le froid à l'intérieur, on est obligé de faire le vide à l'intérieur de l'enceinte. Ça nous sert en fait d'isolant. Et ça, le vide est réalisé donc par les gros tuyaux que vous voyez partir sous la table. Et derrière la cloison se trouvent les groupes de pompage, voilà, qui pompent en permanence durant les caractérisations de ces fameux détecteurs. Donc.
À quoi sert Euclide ? C'est pour regarder des signaux extrêmement faibles. Donc si on regardait des signaux extrêmement faibles, on est en train de dire qu'on veut avoir un bruit de fond aussi très très faible. Sinon, on ne peut pas avoir le signal. Donc, comme on est dans le thermique, tout ce qui est chaud, ça fait du bruit de fond. Donc, on est obligé de descendre bas et Euclide est prévu de fonctionner à basse température pour cette raison. Donc là, pareil, on se remet, ce que disait Mathieu, dans les mêmes conditions de fonctionnement que ce que sera Euclide dans l'espace. Donc, le détecteur qui fait à peu près 4 cm par de côté, on veut que chaque petit pixel, donc on a 4 millions de pixels, reçoive chacun le même nombre exact de photons. À 1% près. Et ça, on ne peut l'obtenir que si la source, elle est très éloignée. Donc là, on fait les calculs, évidemment, mais pour nous, c'était plus d'un mètre. Voilà, on va avoir un champlain. Ce qui qui était prévu dès le départ hein, dans le contrat avec la NASA, c'est qu'on a quand même fait un cross-check. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait là-bas, on a refait les mêmes tests ici pour vérifier qu'on avait des résultats similaires. Enfin, c'est vrai que c'est tout un parcours du combattant pour faire venir les détecteurs des États-Unis jusqu'en France. Rien que d'un point de vue administratif là. Et après ben, eux, comme ils avaient la responsabilité des détecteurs, quand ils nous les ont donnés ici et qu'ils nous les ont remis en main propre, nous fallait qu'on réceptionne, donc on vérifie que ben, ils fonctionnaient bien, qu'ils n'étaient pas abîmés, que enfin, tout quoi, donc on avait toute une procédure qu'on a mise en place effectivement, ben, notamment avec Laurence Caillat, pour valider que les détecteurs qu'on réceptionnait, ils étaient bien.
Il y a un point important aussi, c'est que il s'agissait au départ d'une nouvelle orientation pour le laboratoire qui se lançait dans le spatial, et c'était vraiment quelque chose de formidable pour notre laboratoire, ça, parce que c'est nouveau. On n'avait pas de connaissances particulières dans ce domaine-là, et donc on a souhaité créer carrément tous les outils qui pouvaient nous permettre de faire ces tests. Donc ça veut dire en priorité une salle blanche et les cryostats. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Les cryostats, il en existe autant que de personnes. Après, à partir du cahier des charges et de ce qu'on voulait remplir comme fonction, on s'est mis à dessiner ce qu'il fallait pour arriver à ce qu'on voulait. Ouais.
Moi, j'ai été recrutée pour Euclide, en fait. Je viens d'ailleurs, j'ai déjà fait du spatial avant de venir ici, et j'ai été recrutée pour travailler sur les détecteurs, parce que j'avais justement une expérience détecteur avant. Enfin, voilà, c'est ma spécialité, on va dire, les détecteurs, depuis un bon nombre d'années. Je suis spécialisée, on va dire, de l'UV à l'infrarouge. Mais c'est le même type de détecteur. C'est-à-dire que si on part plus loin dans les X ou dans les radios, c'est des technos très différentes.
Alors, les cryostats, c'est moi-même qui les ai conçus. Fait réaliser tout ou partie a été faite ici, sauf pour les pièces massives. Il a été assemblé ici et les outils d'intégration ont été également développés ici, avec toute la procédure qui va bien pour monter dans l'ordre de tels objets. Alors il faut savoir que bien, on est parti d'une feuille blanche. Voilà, totalement. J'ai commencé la conception de ces cryostats alors que le cahier des charges n'était pas totalement figé, ce qui est extrêmement difficile pour de la conception, puisqu'on n'a pas les limites, on n'a pas l'étendue exacte du problème. Donc, depuis ce moment-là, le début, les premiers traits de crayon, on va dire, jusqu'au montage, ça a pris à peu près 3 ans, quelque chose comme ça.
Les tests.
Ah, ensuite, viennent les tests, les qualifications derrière, ouais, derrière.
Pour valider qu'ils marchent comme prévu.
Alors, l'intégration mécanique, enfin.
C'est un terme générique, en fait, pour résumer l'assemblage. On parle, nous, d'intégration, en fait, ça veut dire assemblage ou montage, c'est ce qu'on appelle intégration.
Effectivement, mécaniquement, en fait, ça peut paraître simple. On a un détecteur en main, enfin, pas tout à fait en main, parce qu'on le tient pas avec les doigts, on le tient grâce à des outillages. Mais donc, on part de ce détecteur et on sait qu'il faut en monter 16 sur une pièce qui va, une pièce mécanique, une plaque toute simple. Mais ça, en fait, ça va impliquer derrière beaucoup de choses au niveau des outillages.
Je vais juste pour dire, Mathieu, parce qu'on dirait que tu es un peu en retrait de tout ce que tu as fait, mais c'est lui qui a développé l'outillage, ce que vous entendez. C'est un gros travail, en fait, de développement d'outillage pour manipuler les détecteurs et aller jusqu'au bout de l'intégration. Ouais.
Plan focal, c'est la plaque sur laquelle est monté les 16 détecteurs. Ça forme une surface avec un plan commun avec les 16 détecteurs. Et donc, on doit mécaniquement donner ça de manière le plus plan possible et à une position la plus précise possible. Voilà, là on en voit juste 2 sur le plan focal. Donc, c'était la capacité du cryo, c'était 2 par cryo. On pourrait en faire 4 en même temps, du coup. C'est des blocs Donc ils sont en molybdène qui font à peu près 4 cm par 4 cm par 12 mm de haut. Voilà, je connais bien les dimensions, la force. Et donc avec une partie, détection, on va dire que le côté mécanique qui est un petit peu compliqué, c'est que il y a sur une ligne, il y a des, ce qu'on appelle des wire bonding. Ce sont des tout petits fils en fait qui viennent connecter les pistes, des fils en or, donc qui sont pointés et qui dépassent, alors qu'ils sont vraiment tout petits, qui font
la taille d'un cheveu, même peut-être
plus petit qu'un cheveu, on les voit même pas à l'œil nu. Et bon, le problème c'est qu'à la manipulation, si on passe le doigt par exemple dessus, on sent rien, mais par contre tous les wire bonding, ils sont tous couchés, tous cassés. Et donc là, le détecteur, c'est poubelle. Donc ça, c'était le côté un peu tendu, on va dire, pour tout ce qui était la mécanique, enfin, on va dire l'intégration autour des détecteurs.
La surface sensible aussi, t'as pas le droit d'y toucher, parce que c'est un matériau qui est fragile, ouais. C'est une petite couche qui fait à peine 10 microns d'épaisseur, en fait, qui est déposée sur le support mécanique. Donc si jamais on la touche, de toute façon on n'a pas le droit de la nettoyer. Et donc ça, comme n'importe quelle surface, comme une lunette, ça va faire des traces de doigts, et donc là ça y est, c'est mort.
Effectivement, les 16 détecteurs, pour vous donner une idée, ils étaient séparés de 500 microns chacun. Ils étaient sur une grille en fait, 4x4, séparés chacun de 500 microns. Enfin, 2 mm, c'est pas énorme. Et donc, évidemment, pour les monter, il faut pas faire n'importe quoi. Enfin, il faut pas choquer le détecteur adjacent, etc. Donc, il a fallu développer tout un tas de choses. Alors, toujours avec le principe qu'il regarde vers le bas. On va dire au CPPM, même si on n'a rien conçu qui va partir dans l'espace, finalement. Rien qui fait. C'est plutôt la partie du LAM, la partie conception mécanique des équipes techniques du LAM. Nous, on a développé tous les outillages en fait qui ont pour le sous-système de détection, qui ont servi à faire le montage et les mesures. Et effectivement, le détecteur en lui-même, c'est de l'ordre d'idée, c'est 1 million d'euros, voilà, pièce. Donc c'est vrai qu'il y a eu, par exemple un moment où j'étais beaucoup présent au LAM pour faire ces opérations. J'étais beaucoup avec aussi un collègue qui n'est pas là aujourd'hui, là, qui s'appelle Jean-Philippe Logier, qui était avec moi. On a beaucoup travaillé ensemble. Et donc il a eu un moment, une étape dans l'intégration où il a dû donc transporter le plan focal, donc équipé des 16 détecteurs de vol, donc on va dire à peu près 16 millions d'euros dans les mains. Et donc il a dû à un moment prendre l'outillage qui nous servait à les tenir et aller le déposer sur un autre support. Donc il a fait quelques pas avec cet objet. Alors, on a bien vérifié qu'il n'y avait pas de fil qui traînait, qu'il ne pouvait pas trébucher. Voilà. Donc effectivement, il y a quelques moments, il y a des petites gouttes de sueur qu'on ne voit pas parce qu'on est dans nos combinaisons de salle blanche. Mais bon, voilà.
Il faut bien avoir à l'esprit quand même, c'est que lorsqu'on fait le montage, nous, on est à température ambiante. Et au final, les détecteurs, eux, ils voient le froid. Et entre la température ambiante et le froid, ben, il y a des restreints qui s'opèrent. Et ça veut dire qu'il y a des contraintes thermomécaniques qui apparaissent, donc où on peut casser des choses. Dans le cryostat, qui est donc une enceinte qui reste fixe ad vitam aeternam, donc on n'a pas le problème de vibration, mais sur le plan focal, lui, c'est un objet qui va donc partir dans la fusée, et donc il va être soumis à de très grosses vibrations. Donc on rajoute au froid aussi le problème de la vibration. On a le problème des restreints, donc on doit conserver le serrage, et le même serrage en plus, pour ne pas ou le perdre ou surcontraindre ce qu'on sert. Donc on joue beaucoup sur les matériaux, les coupes de serrage, les matériaux de toutes les pièces qui interviennent dans le serrage, donc pas que la vis, mais le support, etc. etc. Et donc c'est pour ça que ça rend un peu compliqué les choses.
Ah, nous, c'est jamais fini, dans le sens où on sait qu'il va y avoir d'autres soucis qu'on risque de voir derrière, et donc les cryostats, on a besoin de les garder encore jusqu'au moins le décollage, la calibration en vol, parce qu'on pense, on s'attend à ce qu'on ait besoin de refaire certains tests au sol. Alors ils ne seront pas refaits sur tous les détecteurs de vol puisqu'ils seront partis, mais on a quand même les 4 SPER donc, qui nous permettent d'avoir des références. Et il y a certainement des choses qu'il va falloir qu'on reteste a posteriori. Donc on va dire, la CARAC en soi, elle est finie, hein, caractérisation de base. Et on n'a pas le choix parce qu'on a un timing, on a des délais qu'on doit, rendre les détecteurs. Mais on sait qu'on aura besoin de refaire d'autres tests pour aller un petit peu plus loin sur la compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que comme il y a une autre calibration qui doit être faite en vol, en fait, qui est complémentaire de la... Enfin, caractérisation, c'est la même chose que calibration, en fait. Hein. Calibration au sol, calibration en vol. Donc comme c'est complémentaire, c'est pas fait dans les mêmes conditions, il faut qu'on puisse faire le lien, en fait, entre les deux. Donc tout ce qu'on mesure en vol doit être rapporté à ce qu'on a fait au sol. Sachant qu'on va dire au sol, on est dans des conditions idéales par rapport au vol.
Le mieux, ça serait aux
dernières nouvelles, on va peut-être partir en Ariane 6. Hein. Bah, tout a été dimensionné pour Soyuz. Ouais.
Donc, une accélération.
Donc ça peut faire des petits changements.
On donnera un petit coup de serrage.
Voilà.
On devrait aller.
Exactement.
Oui, alors peut-être, il y a peut-être plus de pièces du cryostat.
Quand j'étais petit, je passais mes étés dans la Drôme et je m'allongeais dehors, je regardais la voûte céleste. Et ouais, j'avais une sensation de vertige. Tomber dans la voûte céleste.
On essaye de peser l'univers.
Le métier à tisser l'univers.
On est tout et rien dans l'univers. On est la chose la plus avancée que l'on connaisse de l'univers, comme quelque chose qui nous dépasse complètement.
Euclide, le métier à tisser l'univers, donne la parole au personnel du CNRS, d'Aix-Marseille Université et du CNES, impliqués dans la réalisation du spectrophotomètre infrarouge Grand Champ, également appelé NISP, l'un des deux instruments embarqués de la mission spatiale Euclide de l'Agence spatiale européenne. Les chercheurs et ingénieurs que vous entendez ici travaillent principalement au laboratoire d'astrophysique de Marseille et au Centre de physique des particules de Marseille. Cette série d'émissions a bénéficié du soutien du CNRS, d'Aix-Marseille Université, du CNES et du LabEx au CEVU.